La Sexploratrice, présentée par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. MonPlanetX.com. I know
how it sounds. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice en compagnie de Max Lacasse et Mel Trudel.
Hey, salut!
Hello, hello, coucou!
Hello, hello, coucou!
Oh Max, quelle émotion hier avec l'hommage à Yvon!
Ça a vraiment été touchant.
Vraiment, puis j'ai réécouté un peu là, l'intégrale. Mon Dieu que je manquais de mots!
Ouais, je pense que c'est un peu normal dans ce genre de situation-là, surtout que ça s'est arrivé il n'y a pas longtemps.
Ouais.
C'est difficile de se refléter sur un décès qui vient d'arriver parce qu'on est dans l'émotion.
Oui, vraiment. Puis on dirait que je n'arrivais pas à trouver les bons mots pour bien le décrire et tout. Mais bref, c'est un homme grand qui nous a quittés. Puis vraiment, ben en tout cas, merci d'avoir choisi cet extrait-là. C'est un épisode vraiment marquant, l'épisode 34, qui est bourré de contenu intéressant. Donc, allez le réécouter, vraiment, je pense que ça vaut la peine. Puis, on va le repartager assurément là, dans nos différents réseaux sociaux.
Yes, il est disponible en ligne sur le site de Radio X.
Voilà. Comme vous le savez, on aime toujours savoir d'où est-ce que vous nous écoutez en ce moment. Êtes-vous dans votre lit? Êtes-vous dans votre cuisine, dans votre truck, dans votre voiture? Mais là, bon, si vous êtes dans la voiture, vous pouvez peut-être attendre d'être stationné.
Y en a-tu qui nous écoutent dans le lit, tu penses, en se faisant des guilis-guilis amoureux?
Je pense que oui.
Ouais.
Ben moi, j'ai beaucoup d'amis qui nous écoutent, qui nous disent nous écouter avant de se coucher. Ou ils s'endorment avec nous.
OK.
Je trouve ça quand même le fun.
Ben, c'est cool.
Et beaucoup de gens nous réécoutent en rediffusion. Donc, vous avez accès sur Spotify, sur TuneIn, sur RadioX.com.
Sur
vous avez
TuneIn.
Accès.
Oui. C'est du monde qui vont là-dessus?
Ben, je pense que oui. Là. En tout cas, moi, ma Alexa bon, à la maison, si je lui demande... Choix Radio X, ben elle va. Choix Radio X,
c'est
TuneIn.
Ah, oui, hein. Bon, tu parles d'une affaire. Je connais rien des technologies. Il va falloir que je me renseigne. Il faut que j'arrête de prendre mes informations dans le Publisac. C'est ça que ça veut dire.
Oui. Okay. Tu reçois encore ça, toi?
Non. C'est pour ça que je connais pas grand-chose.
Bon. Max, tu sais à quel point je trouve important de connaître notre langage amoureux hein, pour pouvoir mentionner à notre partenaire comment est-ce qu'on aime recevoir l'amour de l'autre et comment est-ce qu'on aime le partager, le signifier, le signaler.
Très important.
Je trouve ça important de connaître nos blessures, d'en parler avec notre partenaire. Je trouve important également de connaître notre style d'attachement.
Oui.
Et celui de notre conjoint et notre conjointe.
Tout à fait.
Ce sont tous des choses, je trouve, qui sont extrêmement importantes, qui valent la peine d'être travaillées, d'être connues de nous et de notre partenaire.
Mais ça fait partie de la communication saine dans un couple.
Absolument.
De traiter, d'aborder tous ces sujets-là.
Mais oui, vraiment, pour entretenir la relation, pour évoluer, tout ça. Au lit, c'est un peu la même chose.
Plus touché, par contre.
Un peu plus touché. C'est pas toujours évident de communiquer ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Hein, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ne sont pas nécessairement satisfaits au lit, mais font avec. Hein, ils vont prendre ce que c'est, that's it. Mais savais-tu qu'il y avait une possibilité de aussi connaître notre personnalité sexuelle?
Ben, tu m'as parlé de ça récemment, mais non, avant que tu m'en parles, j'avais aucune idée que c'était possible. Puis je pense que c'est un outil qui pourrait aider beaucoup de personnes parce que comme on l'aborde depuis le début de la saison, y a des zones taboues dans le couple. Là. Ça existe encore beaucoup, surtout dans l'intimité, dans la sexualité. Souvent, on aime des choses, on comprend pas pourquoi on les aime. Des fois, on a des fantasmes qu'on aimerait faire, puis on se dit, ben là, pourquoi on n'est pas capable de les faire? Alors, de connaître notre personnalité sexuelle, ça veut aussi dire de mettre des mots sur ce qu'on ressent, je pense.
Ben, exactement.
Sur ce qu'on a envie, quels
sur
sont
ce
nos
qu'on
désirs.
A envie.
Puis peut-être nous permettre de s'épanouir sexuellement.
C'est en fait, c'est le schéma érotique. Donc, nos schémas érotiques ben, permettent de pouvoir un peu partager ou bien communiquer nos préférences, les fantasmes et notre type de sensualité. Ou... Bref, pour en parler, on a une experte avec nous qui est Mademoiselle Alexine Queen. Bonsoir.
Bonsoir, Alexine.
Allô.
Alexine, tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que les schémas érotiques. On en a parlé lors de ton dernier passage en onde.
Ouais.
Et on s'était dit que la prochaine fois que tu allais passer avec nous, on allait aborder ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que c'est exactement là, un schéma érotique? Est-ce que je l'ai bien expliqué?
Tu l'as bien introduit, je trouve, oui. Un schéma érotique, en fait, c'est pas 100% notre personnalité érotique, mais un peu comme notre carte de saveur, notre carte de désir, de préférence. Mmh.
Comme la pastille de goût à sac?
Genre, mais plus fun. Fait que c'est un concept qui vient d'une sexologue américaine qui s'appelle Jaya. On la connaît sous Jaya, c'est Jaya Ma, son nom complet. Puis elle, en fait, elle a remarqué à travers sa clinique, là, finalement, les patients qu'elle recevait, les patients et patientes qu'elle recevait, qui avaient comme des espèces de similitudes, veux pas, malgré toute l'unicité que peut représenter la sexualité d'une personne et encore plus d'un duo de personnes, tu sais, quand tu arrives pour matcher ça avec quelqu'un d'autre. Mais elle voyait vraiment des similitudes, puis elle s'est mise à chercher comment elle pouvait classer ça finalement pour que ça devienne un outil et que ça puisse aider les gens. Fait qu'elle a créé ce qu'on appelle le blueprint érotique en anglais, le schéma érotique en français.
Donc, c'est tout le monde aurait un schéma érotique unique, là.
Oui, exact. On a tous un schéma qui est comme primaire. Il y en a cinq. Fait qu'il y a cinq catégories de schémas, finalement. Il y en a, on en a tous un primaire, puis on peut en avoir un secondaire, ou même deux secondaires. Mais souvent, on se retrouve dans un principal.
Alors, on est dans le même principe que les langages amoureux, autrement dit.
C'est pas basé sur la même source, si tu veux, au sens où l'amour et le schéma érotique, c'est deux choses différentes. Des fantasmes versus comment tu partages l'amour avec l'autre. Par contre, c'est un outil qui peut te servir à toi te connaître mieux, à savoir comment tu exprimes ta sexualité, mais surtout qu'est-ce qui t'excite, puis dans quelle zone tu peux aller jouer.
Ben, on est vraiment, comme on dit, dans l'érotisme.
Yes. C'est vraiment dans le domaine des fantasmes du désir.
OK.
Qu'est-ce qui te turn on, qu'est-ce qui te turn off aussi.
OK. Il y en aurait cinq.
Les schémas ont leur lumière. Oui, chacun des schémas a comme sa lumière et son ombre, si tu veux. D'apprendre à les connaître, ça peut nous permettre aussi de voir qu'est-ce qui est un plus pour nous, puis qu'est-ce qui est un moins pour nous.
Qu'est-ce que tu veux dire par chacun des schémas a comme son ombre et sa lumière?
C'est de la poésie, là, tu vois, encore. Mais je pense que la meilleure façon, c'est de vous expliquer, d'écrire les cinq schémas, puis en même temps, ça va être plus concret qu'est-ce qui est ombre et lumière.
All right, lance-nous dans la piscine.
Good. Fait, premier schéma sexuel, le plus typique ou celui qu'on pourrait deviner plus facilement, c'est le schéma sexuel. Ça se caractérise finalement par un intérêt marqué pour tout ce qui est génital, tout ce qui est sexe très porno, là, vraiment. Là. Fait que c'est tout ce qui est, tu vois l'autre personne nue, t'es excité, t'es à côté dans ton excitation déjà. T'as pas besoin de rien de plus que ça, que de savoir qu'il va avoir un acte sexuel ou de voir quelque chose qui est très pornographique. Premier schéma. Fait que dans sa lumière, au sens où qu'est-ce qui est facile pour ce schéma-là, qu'est-ce qui fonctionne bien, ben c'est un turn-on vraiment, vraiment facile, vraiment accessible, qui correspond, veut pas, beaucoup à notre société aussi.
C'est vrai que c'est très classique là, comme et, excitation. La plupart des gens, j'ai l'impression, sont stimulés par le corps nu de leur partenaire.
Ouais, mais tu sais, on a tout un peu de ça, mais ce schéma-là a besoin que de ça pour être satisfait, dans le fond.
Focus là-dessus, besoin... puis ça peut être...
Ouais.
Donc, okay. Il y a des gens qui sont uniquement focussés, par exemple, sur ce schéma-là en particulier.
Oui, exact. Ils sont satisfaits avec ça. Fait qu'eux, leur sexualité, ça peut être que de la pénétration. Genre, génitaux dans génitaux, puis c'est satisfaisant.
Ça peut leur convenir, exactement. Donc, par exemple, des gens qui n'ont pas besoin de faire de préliminaires, se couchent ensemble en cuillère, ou whatever, toujours souvent la même position, j'imagine, ou peu importe, mais c'est très, c'est ça, phallocentré, là, tu sais, c'est très génital, relation sexuelle, that's it.
Ouais, ben, tu sais, ça peut être, mettons, une femme qui est ça, elle peut être très concentrée sur son clitoris, mettons.
Ouais.
C'est ça qui va y amener une grande excitation, tu sais, mais il n'y a pas besoin de tout un décorum, il n'y a pas besoin d'habiller nécessairement la femme pour que ce soit hyper excitant. C'est ça.
Parfait.
C'est des fantasmes qui sont très... je ne sais pas comment dire ça, mais qui vont rapidement au but. Là, finalement, il n'y a pas,
oui,
y a pas de tout tourne autour.
Pas de temps à perdre, let's go, c'est sexuel.
C'est ça.
Très direct.
Oui. Fait que dans son nom, en fait, c'est qu'avec quelqu'un d'autre, ça peut être difficile. Cet aspect-là, on est concentré vraiment, vraiment sur les génitaux, qui a un gaspillage de potentiel, d'intimité, de connexion, si on va trop rapidement ou trop uniquement là-dessus. Puis c'est un schéma qui a de la difficulté finalement à s'adapter aux autres schémas. Il a besoin d'être guidé, il a besoin d'explications pour comprendre parce que pour lui, c'est satisfaisant. Mm-hmm. Le reste, c'est...
Puis, c'est pas mal en soi. Si son partenaire est du même type de schéma érotique, tout va bien, là.
Oui, exact.
OK.
Fait que ça, c'est le premier schéma sexuel. Deuxième schéma énergétique. Ce type érotique met l'accent sur l'énergie sexuelle, la connexion énergétique. Fait que tout ce qui est orgasme énergétique tombe dans cette catégorie-là. Tout ce qui est pratique tantrique, développement de la conscience corporelle. Fait que vraiment jouer avec l'énergie.
Un orgasme énergétique, j'ai jamais entendu ce terme-là. Ça désigne quoi exactement?
C'est tellement bon.
Le corps qui ouais, c'est ça. Le corps qui se... c'est, en fait, quand tu rêves, c'est des orgasmes énergétiques. C'est un orgasme en rêvant, c'est un orgasme énergétique. Puis il y a des gens qui ont la capacité de faire ça sans, en étant éveillé, finalement.
Tu veux dire le rêve en soi est un orgasme énergétique ou quand j'ai un orgasme en rêvant, là, ça devient un orgasme énergétique?
Oui, quand tu as un orgasme en rêvant, ça tombe dans la catégorie des orgasmes énergétiques. Puis entre deux partenaires, tu sais, moi, je suis capable d'aller dans cette catégorie. Je fais partie de cette catégorie-là, si tu veux. Pas vraiment, là, je vais t'expliquer tantôt, mais ces orgasmes sont accessibles pour moi. Puis en fait, mon partenaire, il peut juste penser à qu'est-ce qu'il veut faire sur mon corps, là, puis je vais le ressentir réellement, au point que je suis capable de décrire, de dire qu'est-ce qu'il a fait, puis je vais aller jusqu'à l'orgasme sans que jamais rien touche à rien. Tu sais.
Mais là, est-ce qu'on parle de télépathie, là, ou...
C'est de l'énergie. Je peux pas comprendre sa pensée. Je peux ressentir.
OK, mais attends un peu. Si on veut mettre ça en image, par exemple, vous êtes les deux à la maison, c'est le soir, vous êtes dans le salon, regardez peut-être Stat, il y a un foyer d'allumé, un beau tapis, et là, ton chum pense à ce qu'il aurait envie de te faire et toi, tu le ressens.
Il y a un certain contexte. Si moi aussi, je te donne, puis on est sur le lit. Mettons qu'on est, les deux dans un moment, les deux, on est tout nus. S'il va se concentrer, mettons, sur... OK, mais mettons, hier soir, tu vois, on faisait des trucs. J'ai dit, pense avec ta tête. Il était concentré sur mon sexe, finalement. Puis là, je dis, pense avec ta tête à mes seins, s'il te plaît. Puis pense à la fois. Tu sais, genre, mets toute ton énergie là. Ben, je le ressentais autant sur mes seins que sur mon sexe, mais ne touchais pas mon sexe à ce moment-là.
Mais est-ce que quand tu lui demandes ça, c'est parce que toi, tu focuses aussi sur tes seins? Donc, par définition, c'est toi qui penses à tes seins et c'est pas l'énergie de ton chum que tu ressens?
Non, parce que la personne, je pourrais avoir les yeux bandés, en fait, puis qui bouge ses mains juste au-dessus de moi dans l'énergie, en se concentrant sur certaines zones, puis je peux arriver à un orgasme. Sans que je le sache, sans que je le voie.
OK, wow, mon Dieu.
C'est tout un autre univers. Là.
Est-ce que c'est ce qui rejoint un peu comme le sursexe, là, tu sais, qui pourrait... Ça demande quand même du temps, hein, par exemple, d'avoir un orgasme énergétique. Non. En tout cas, je pense, là, pour ma part, là, ça prend... c'est pas la même chose que de faire l'amour conventionnellement, là, mettons. Là.
Non, ça s'active... automatique aussi. Une fois que tu sais comment faire, là, ça s'active aussi rapidement. Parce que le slow sex va rentrer dans le schéma sensuel, en fait.
Ah,
puis c'est la lenteur, puis c'est tout ça. T'sais. Fait qu'on n'est pas nécessairement dans l'énergie.
Donc, juste avec ses mains, là, vraiment, Alain Choquette, il est capable de te donner un orgasme.
Yes.
C'est fascinant, ça.
Quand même, hein?
On dirait que le cerveau humain...
C'est accessible à beaucoup de gens.
Mais pour moi... Puis c'est peut-être mon cerveau reptilien là, qui ne comprend pas, mais j'ai du mal à comprendre comment c'est possible de faire ça parce que peut-être que ça n'a jamais été dans mon environnement proche, puis j'ai jamais vu ou vécu ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire les liens dans ma tête, à savoir comment on peut avoir un orgasme en mettant nos mains, par exemple, au-dessus du vagin.
Max, j'ai déjà...
Il y a plusieurs corps, là.
J'ai déjà fait l'expérience, moi, de Reiki, là.
Puis c'est quoi, ça?
C'est une espèce de forme de... massage énergétique
japonais.
Traitement énergétique. Ouais. Et la personne, j'avais les yeux fermés et je sentais la chaleur des mains de la personne sur mon corps alors qu'elle ne me touchait pas du tout. Donc, j'imagine que ça rejoint ça un petit peu.
Exact. Tu vas jouer dans un des corps énergétiques aussi. C'est juste que tu le fais avec une intention sexuelle, avec une intention qui est différente. C'est pas une intention de guérison.
Je serais curieuse de savoir s'il y a des gens qui l'ont expérimenté.
Oui, écrivez-nous 88-670-9098. Mais moi, maintenant que tu m'en parles, je vais aller me renseigner sur le sujet puis j'ai presque envie de tenter l'expérience. Est-ce que l'orgasme que tu vis quand il est énergétique, il est plus ou moins puissant qu'un orgasme dit conventionnel?
C'est différent. C'est une réponse plate, mais c'est différent. Tu sais, c'est pas...
C'est que c'est pas juste la région sexuelle qui est stimulée, j'imagine?
Non, 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 c'est un orgasme de tout le corps. Là. C'est juste comme une... je sais pas comment dire ça. T'as comme une béatitude, un plaisir absolu dans tout ce que tu possèdes comme morceau, mais dans ta tête. Tu sais, l'orgasme, il est mental au final. Il est toujours mental. Ouais. Le corps a des réactions, mais l'orgasme... Le corps a des réactions de plaisir, mais l'orgasme est toujours mental. Fait que c'est juste comme... Si tout ton corps, puis un peu... même ton corps est comme radiant, comme si l'orgasme était partout dans ton corps, puis il y a comme une radiation autour de ton corps de cet orgasme.
Est-ce que ça se pourrait que j'ai déjà vécu ça, mettons, en dansant, lors ouais. d'une danse extatique, mettons? Est-ce que ça ressemble à ça?
Absolument. Absolument.
Ah! Oui. OK, là, je comprends. Ça m'est arrivé. J'ai déjà eu un orgasme en dansant.
Pour vrai, tu dansais ouais. quoi?
Sur de la musique.
Oh, Lady Marianne!
Non. Non, c'est sur de la musique. En fait, il y a des soirées de danse extatique hein, que les gens.
Ouais.
Où les gens se présentent, en fait, et vraiment dansent au son de la musique, se laissent aller
quel
complètement.
Genre de musique?
Souvent, c'est de la musique un peu.
Ambiante.
Psychédélique, mettons.
Ouais. Que tu pourrais écouter comme musique sur un trip de champignons.
Mais,
ouais.
mais tu sais, moi,
c'est vague,
personnellement, de la musique classique, je peux. ça ou du violoncelle et tout ça, ça m'apporte quand même dans un état, peut-être pas orgasmique, là, mais vraiment ouais. un état très, 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 très élevé en fréquence où je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais ça, mon corps, là, si je bouge sur cette musique-là, là, ça, vraiment, c'est très intense. Mais la danse extatique était vraiment plus sur de la musique psychédélique et je
la
pense que j'ai eu un orgasme.
Tu veux dire de quoi d'ambiant, comme de.
Oui, okay. oui.
Ok, ok. Un peu low tempo.
Ouais. Donc, je vous invite à aller lire là-dessus. C'est quand même intéressant. Là. C'est fascinant, mais j'ai jamais vécu ça avec un partenaire, en fait.
Donc, étant solo.
C'est sur ta bucket list. L'autre fois, moi, je t'ai entendu dire « j'ai plus de fantasmes ». Rajoute-en, il y en a encore.
Ah, ben oui, ben tu vois, c'est vrai, ça peut être un vrai, fantasme. Ça. Non, mais c'est vrai, dans le sens, j'ai pas mal, tu sais, j'ai plus envie de vivre autre chose que ce que j'ai vécu, en fait. Mais là, tu vois, ça vient s'ajouter.
Mais t'as plus de fantasmes, mais maintenant, tu reviens
là,
dans tes souvenirs.
Plus.
Puis là, t'en as une plus. C'est ça.
Ouais.
OK. Et là, ça, c'était le deuxième schéma
énergétique. Ouais, schéma énergétique. On a nommé beaucoup de son positif, mais dans son ombre, si tu veux. Fait que dans son revers, c'est que ça peut facilement devenir too much quand t'as du mal à maîtriser ça. En fait, c'est que c'est trop. Là, la personne fait juste te toucher, puis tout est extrême. Toutes les sensations sont décuplées. Fait que c'est vraiment intense, puis c'est pas le fun. Tu viens comme avec un dégoût, en fait, de toute sensation, parce que c'est too much.
Tu deviens hypersensible.
Ouais, c'est ça. Le type de personne, là, que des fois, tu peux y faire un câlin, puis des fois, tu peux pas y faire un câlin, puis tu vois que la personne, elle se raidit, puis elle est juste pas bien, puis pourtant, elle t'aime, la personne, c'est ton amie, puis elle est très chill avec toi, mais à ce moment-là, dans son énergie, ça marche pas, c'est qu'elle ressent trop fort dans son énergie. Fait que si c'est votre cas, si vous avez, des fois, vous figez, quand quelqu'un veut vous toucher, en fait, là, puis quand quelqu'un que vous aimez, là, on s'entend, vous avez un potentiel, dans le fond, à aller dans ce,
oh, ouais.
dans ce schéma érotique.
Ah, je pensais juste que j'étais autiste.
Moi aussi. Parce que moi, j'ai de la misère. C'est faire des colleux, des trucs comme ça. On dirait que.
OK, bon,
on est dans ma bulle, mais t'es comme ça.
On est correct. Ah, oh, touche-moi pas, là. Oh non, touche-moi pas, je suis pas bien.
Ouais. C'est drôle.
Autre truc dans son shadow aussi, c'est qu'il y a un potentiel à l'élitisme, si tu veux. Tu sais, c'est pas un meilleur schéma érotique, c'est pas un schéma érotique plus avancé, plus évolué que les autres. Là.
Mm-hmm.
Fait que parfois,
mais j'imagine que
il y a ça.
Parce qu'il convient à une certaine catégorie de personnes, ça les met en marge, puis ça doit être de là que devient la catégorie peut-être élitiste. Là.
Ben, tu sais, c'est une perception de je suis meilleure que les autres parce que moi, je suis capable d'atteindre des orgasmes énergétiques. Là,
ouais.
Puis il y a des gens qui sont même pas capables d'avoir des orgasmes physiques.
Ouais.
Fait que c'est un peu ça, le shadow, okay. si tu veux.
Excellent. Ensuite?
Autre schéma, le schéma sensuel, on en a parlé un peu tantôt, mais en fait, c'est un schéma qui adore que tous ses sens soient remplis, tu sais, fait que d'avoir la bonne musique, d'avoir une odeur le fun, la lumière tamisée, puis que tu frenches longtemps, tu caresses longtemps, puis tu prends le temps d'être en pleine conscience, dans le fond, dans ton moment, sans aller nécessairement jouer dans l'énergie, mais juste comme pleinement dans ton corps, pleinement dans tes sens.
Ça s'appellerait schéma sensoriel.
Ouais, exact. Il y a beaucoup de ça, là. Fait que c'est une grande dans sa lumière, c'est une grande sensibilité corporelle, sensorielle, une grande capacité à l'intimité, à connecter avec l'autre, à créer des ambiances, des scènes, à tout ce qui est romantisme aussi. Puis dans son revers, bien, il y a énormément de turn-off. Tous les détails peuvent être un turn-on. Une odeur peut être un turn-on, comme une odeur peut être un turn-off. Fait que si t'es proche, mon chum est dans ce schéma-là, moi. Puis tu vois, si il voit quelque chose qui l'intéresse, pas nécessairement la vue, là, il a tout le temps les yeux fermés, mais souvent en tout cas, mais s'il y a quelque chose qui passe par sa tête, dans le fond, au moment où il est comme sur le climax, ça peut être soit un turn-on, genre, ça le fait traverser vers l'orgasme, ou au contraire, ça le fait comme retourner dans le bas de l'échelle. T'sais. Juste un petit détail qui va venir changer les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce schéma sensuel.
Oui, bien, je pense que ça pourrait même être la majorité des gens, peut-être.
Oui, je pense que oui. Des fois, c'est facile d'avoir quelque chose qui nous sort de notre concentration.
Ah, surtout quand t'es TDA, hein?
Ah, surtout.
Tu fais l'amour, là, tu vois que le rideau, il est mal. Ah, oh, non!
Ah, c'est vrai. Il faut que je me lève demain matin. Il faut que je me lève tôt demain matin. Il faut que j'aille porter les enfants à l'école. Ça arrive souvent, ça.
Et le schéma érotique, c'est là que, qui rejoint le saut sexe, mais en même temps, le saut sexe, c'est pas obligatoire qu'il y ait un contexte ou une ambiance ou pour le pratiquer nécessairement.
Mais ça veut pas dire, tu sais, même si ton schéma érotique, c'est le schéma sensuel, t'as pas besoin que ça sente bon puis que tous tes éléments soient réunis.
Okay.
C'est juste que ça turn on encore plus.
Ah ouais, OK.
Dans tes fantasmes, tu sais, Max, tantôt, tu disais, ah, t'as le feu de foyer, puis la doudou, puis ci, puis ça, là. Je sais pas ce que tu me décrivais précisément tantôt, mais c'est que ces scènes-là, de créer une scène, puis de penser aux détails, de penser à qu'est-ce que tu vas manger avant, mettons, puis vous allez faire quoi, puis de créer ces scènes-là, finalement, c'est très érotisant pour la personne. Ça l'amène à fantasmer davantage.
Super.
Si on se retrouve littéralement à être prisonnier de ce schéma-là, est-ce qu'il y a des techniques qu'on peut mettre en place pour éviter de toujours sortir du moment présent et de retomber dans notre concentration, dans l'être cher, dans ce qu'on est en train de pratiquer comme acte?
Bien, au sens où si tu as un schéma sensuel, c'est que tu es intéressé par les sens. Fait que quand tu es dans tes sens, quand tu es dans ton corps, finalement, et pas dans ta tête, c'est là que tu vas ressentir davantage, puis c'est là que ça devient de plus en plus excitant. La meilleure façon de passer de la tête, des pensées à ton corps, c'est la respiration ou émettre des sons. En fait, c'est la vibration qui va se créer dans le corps, là, et en respirant et en émettant des sons. Fait que si tu te mets à gémir, même si t'étais pas super méga 9 sur 10 excité, c'est à 3 sur 10, puis tu te mets à gémir, puis tu as ce schéma sensuel-là, tu vas revenir dans ton corps, puis à ce moment-là, ça va être plus facile, plus accessible d'aller vers l'orgasme.
Oh, je comprends mieux des choses.
C'est intéressant.
Je comprenais pas pourquoi parfois certaines femmes, ou même des hommes, mais surtout les femmes, gémissaient, même quand tu voyais qu'il y avait comme pas nécessairement de toucher ou de... Finalement, juste de gémir...
C'est pour se mettre dans le mood.
Ouais. En soi, ça l'excite, ouais. Finalement.
Oui, il y a des gens que ça excite, oui, mais ça peut être juste une façon de switcher de ta tête à ton corps. En fait, si
c'est revenir dans le moment présent.
Tu peux pas penser à ta liste d'épicerie. Ça marche pas un par-dessus l'autre.
Ouais.
Tu vas juste finir dans ta respiration, dans ton gémissement. Puis ça peut être n'importe quelle sorte de bruit. Là,
si tu réussis à gémir puis penser à ta liste d'épicerie, il faut peut-être que tu te poses des questions sur ton amour concernant les pâtes de lait. Là.
C'est ça. Va prendre une douche, faire autre chose.
C'est ça, voilà.
Moi, je suis curieuse. Quelqu'un qui gémit là, pour vous, là, mettons, là, comme toi, là, une femme qui crie, là, ça t'excite-tu ou c'est turn-off plus qu'autre chose?
Quand c'est trop, ça me sort de ma zone.
C'est
moi. Ça me sort vraiment de ma zone parce que des fois aussi, on le sent que c'est comme fake un peu.
Oui, c'est ça, c'est turn-off, ça.
C'est ça. Quand c'est naturel, oui, mais encore là, ça dépend de comment elle le fait. J'ai déjà rencontré une fille, moi, qui le faisait en anglais. Ça, je trouvais ça bizarre. J'ai mis ça en anglais, puis elle me parlait en anglais. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Puis pour être franc, ça a arrêté de m'exciter. Je veux dire, oh yeah, daddy! Ouais, ben là, t'as peu, là. Je suis pas ton père de un, puis de deux, pourquoi tu parles anglais? Tu viens du Saguenay.
Mais moi aussi, ça m'est arrivé une fois avec une copine. Et sans même lui toucher, à crier, j'étais comme, non, mais c'est parce que là, ça, c'est pas le fun, là.
Mais t'étais à quelle distance d'elle?
Ben, en fait, j'étais prêt, là. Je veux dire, mettons que je la touchais avec mes mains, mais...
Mais t'es peut-être en train d'avoir un orgasme énergétique?
Non, c'était plus du « je fais semblant », mettons, je pense. Okay. Je me mets dans le mood, là.
Elle voulait gagner un Oscar.
C'est pas... Mais toi, Alexine, parce que je pense que t'as vécu l'expérience aussi avec des femmes, ou peut-être pas, ou peut-être dans des films ou whatever, mais est-ce que toi, ça t'excite ou ça te turn off une femme qui gémit, ou un homme, ou whatever?
Tous les bruits, moi, j'adore ça. Il y a une différence pour moi entre quelque chose comme un bruit qui est primaire, viscéral, ressenti, peu importe le degré de volume
oui.
de ça, versus quelque chose qui est théâtral, qui est là dans la performance.
C'est ça, exactement.
Un bruit, puis ça va m'exciter du moment qu'il vient comme de ton fond, là, et non pas de...
Et que c'est pas théâtral, c'est le bon mot. C'est vraiment
j'aime
le bon
le drame,
théâtral.
Ouais,
c'est ce qui, moi, me turn off. C'est ça aussi.
Oui, c'est ça, exact. Là. C'est des fois qu'on a l'impression qu'elle fait du théâtre d'été, là, tu te dis, ben là, t'as peu, là. On est l'hiver de un, puis de deux, je pense.
Ben oui, parce que parfois, je veux dire, on peut émettre un son sans s'en rendre compte, puis que c'est fort, là.
Ouais.
mais un homme qui gémit, là, ça, c'est excitant, pas à peu près, là. Moi, quand mon partenaire gémit, là, c'est... Alexine, j'imagine que c'est la même chose pour toi.
Ouais. Il y a un côté où c'est une validation, on ne veut pas de ce qu'on fait, mais
ouais,
de ce qu'on est en train d'offrir. Mais il y a le côté aussi que tu sens que la personne, justement, elle descend dans son corps, elle sort de sa tête, puis t'es comme, oh, on est juste comme dans cet instant-là, puis il n'y a rien d'autre, tu sais, finalement.
Mais vraiment, je pense que tu nous as apporté un bon truc pour revenir dans le moment présent lorsqu'on est déstabilisé par notre environnement externe.
Prendre une grande respiration et voilà. Faire un petit...
Ouais.
Une grande respiration.
Ou tu te concentres sur une seule chose, tu sais.
Ouais, et un gémissement. On le fait dessus, tout le monde en cœur. Un, deux, trois.
Ah. Ah non, mais ça, c'est un souffle de pays.
C'est la dernière journée de la semaine, mesdames et messieurs, pour la section.
Oui, mais on est en
Londres. Laissons-nous aller.
Ah, OK. OK, franchement, chez moi.
Oui.
Le schéma kinky, qui est facile à deviner un peu, mais en fait, c'est le type érotique qui est attiré par des activités sexuelles non conventionnelles ou alternatives. Fait que tout ce qui est bondage, fétichisme, jeu de rôle, whatever, tout ce qui est domination, tout ce qui est, tu sais, fait que ça soit kinky mental, tu sais, fait qu'avec un jeu mental ou avec un jeu avec le corps, finalement, rentre dans cette catégorie-là. Ça veut pas dire que ces gens-là ne sont pas capables d'avoir une sexualité dite vanille. Ça veut juste dire que leurs fantasmes sont majoritairement dirigés là-dessus. C'est ça qui les excite top du top du top, finalement.
Des fois, l'interdit, c'est aussi excitant. Penses-tu qu'on pourrait ranger l'infidélité dans ce genre de schéma érotique-là? Parce que ça peut être quelque chose de kinky aussi.
Je pense que l'infidélité qui est un fantasme peut être rangé là-dessus. Quelque chose qui t'excite. Après ça, quelqu'un qui est infidèle couramment, c'est pas un schéma érotique. Là, c'est un...
problème.
C'est ça qui est ton érotisme. C'est comme... tu fais juste souffrir. Là, mon Dieu, ça peut pas être un schéma érotique. C'est quelque chose qui est à regarder autrement.
Ouais.
Peut-être que t'es juste pas dans un type de relation qui te convient. Là,
mm-hmm.
Fait que dans sa lumière, le kinky, c'est les plus créatifs, les plus imaginatifs. Ils ont énormément d'idées. Ils peuvent peaufiner aussi un jeu sexuel jusqu'à ce que ça devienne comme optimal, du top optimal, tu sais, que ça devienne la chose la plus excitante, soit pour eux ou soit pour l'autre aussi. Une facilité à se laisser aller dans ces espaces-là. Puis c'est le schéma érotique qui aurait la meilleure communication aussi avec leur partenaire, parce que veut pas, ils n'ont pas le choix de verbaliser, de nommer ou de faire montrer avec le corps, mais vraiment de nommer c'est quoi la limite, elle est où, puis c'est quoi la nuance de la limite, tu sais, entre je veux, si j'aime, tu sais, mettons dans le bondage, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire, tu sais, t'aimes te faire attacher, ok, t'acceptes-tu d'avoir la corde entre les orteils, t'acceptes-tu, tu sais, c'est
ouais,
des micro.
Puis est-ce que tu souhaites être attaché en étoile, par exemple, de façon immobile, ou t'es plus du type attaché les mains dans le dos, ou tu sais, il y a tellement de façons de faire, des types de bondage aussi. Ça peut être du tape, ça peut être des menottes, ça peut être la corde de jute.
Tu sais, quand tu tripes là-dessus, t'as pas le choix de communiquer. Puis tu veux que ça soit optimal, t'as pas le choix de le nommer, puis de dire ah, ça c'était plus un oui que ça cette fois-là. Puis après coup, t'as comme une discussion aussi, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé.
Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour les couples qui ont de la misère à communiquer, d'essayer de se prêter au jeu un peu plus kinky.
Oui, ou juste de se faire des retours. Ah, ça m'a particulièrement excitée. Après, tu sais, la conversation de, après, au lieu de courir dans la douche, te laver ou d'aller aux toilettes rapidement, là, juste le moment après où tu fais comme une espèce de débrief, finalement, de ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que tu as aimé particulièrement, tu sais, juste de nommer à l'autre. Et quand tu as fait ce son-là, genre, ça m'a fait monter. Là.
Ça, c'est un moment quand même que je conseille. C'est le self-care qu'on dit, là, le après, là. C'est un moment quand même qui est important, peu importe le schéma, là. Je pense que.
Ouais,
d'en parler. Mm-hmm. Bon, mesdames, on n'oublie pas d'aller à la salle de bain dans les 45 minutes suivant la relation.
45, c'est long. Tu as le temps de jaser 10 avant d'y aller. Là. C'est comme
comment?
Ou vas-y avec ton partenaire aux toilettes, au pire. Mais tu sais, 45 minutes, tu as le temps de jaser un peu, là.
Les deux?
Oui. Les deux. Il y en a qui sont à l'aise. Là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller aux toilettes avec son partenaire. Mais mais c'est très sérieux. Là. Pour éviter, il y a souvent des femmes qui font des affections urinaires à répétition. Et souvent, elles oublient soit d'aller à la salle de bain après l'acte. Messieurs aussi, vous devriez, en fait. Là, c'est vraiment conseillé, puisque les bactéries peuvent entrer par l'urètre et tout. Mais les jouets sexuels également. c'est votre jouet. Aller uriner, là, même après une relation avec votre jouet sexuel, là, c'est super important.
Oui, mais le débriefing d'après relation, comme tu dis, est aussi très important.
Ah oui, faites le débriefing, puis aller aux toilettes après.
C'est ça. Moi, c'est une habitude que j'ai depuis longtemps. Là, on s'assoit, puis on se regarde dans les yeux après. Non, mais
oui,
après ça,
vraiment.
On se colle,
ben oui,
on
de dire, ah, c'est tellement bon, ah, c'est tellement fun.
Voilà, voilà. Puis
quand,
je pense que c'est bon.
Quand tu mets ta main comme ça, ben oui, vraiment.
Puis toi, Alexine, le self-care, comme elle dit, la discussion d'après sexe, un retour sur ce qu'on vient de vivre dans l'intimité, t'en penses quoi?
Peu importe le schéma.
Peu importe le schéma.
Oui, c'est hyper important. C'est hyper important pour moi. Peu importe le schéma, c'est comme ça que tu amplifies ta connexion aussi, puis t'améliores, puis t'as juste plus de fun. T'sais.
Il y a quelque chose aussi avec le schéma kinky, quelque chose de très, très important à savoir. J'en parle souvent. Lorsque vous avez une relation sexuelle consentante avec quelqu'un qui souhaite pratiquer le BDSM et que vous vous retrouvez en situation de domination et l'autre en soumission, même si la personne accepte que vous laissiez des traces, que vous frappez ou que, bon, ça va loin dans le BDSM, par exemple, n'oubliez jamais que cette personne-là pourrait, à un moment ou à un autre, revenir contre vous malgré son consentement. Donc, pratiquez le BDSM, surtout, en fait, uniquement avec des gens en qui vous avez confiance. Vraiment.
Ouais, c'est un bon point.
Vraiment. Parce que selon la loi, à partir du moment où on laisse une trace sur quelqu'un, la personne peut revenir contre nous. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger quand même.
Et ça prend aussi des safe words.
Les safe words? Ouais. Ben oui, mais c'est primordial. Ben oui, ou des petits signes, là. Mais oui, les safe words, c'est...
OK, ben je t'en ai offert, moi, là.
Ça peut être jaune... jaune, rouge, vert, là. Ça peut être aussi simple que ça. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu aurais à suggérer comme safe word, Alexis?
J'ai jamais tellement utilisé ça. Tu vois, mon mot, c'était cacao, là. Ça n'a pas rapport, là. Peut-être que c'est mon mot pour aucune raison. C'est juste que c'est un mot que tu dis pas. Moi, je trouve que c'est un mot que tu n'as pas à dire. Ça se peut que tu dises oui, ça se peut que tu dises non, comme juste par excitation ou dans une espèce de contexte, parce que ça t'excite de t'entendre dire non, puis que finalement, tu l'as quand même, parce qu'au fond de toi, ça te tente pour vrai, tu sais. Mais c'est tout un univers. C'est pas tant le mot ou un signe ou quelque chose qui fait comme non, ça c'est l'absolue limite en fait. Là, je suis off, là je vais plus, là, tu sais.
Ouais, exact. Ouais.
On n'a pas nommé son nombre. En fait. C'est ça, la lumière, on l'a nommé, ils sont hyper créatifs, ils sont hyper imaginatifs, puis ils peuvent optimiser à l'infini pour que ce soit le plus jouissif du jouissif. Et dans leur ombre, en fait, il y a beaucoup de honte qui est attachée à ça. On n'en entend pas de la honte par rapport au BDSM dans votre show, mais dans la vie normale, courante, générale, il y a beaucoup de gens qui vivent avec cette honte-là, qui ont une honte aussi de porter un fétichisme, qui ne vont pas jamais en parler avec leur partenaire de vie, finalement, puis que c'est juste dans leur tête, ou bref. Fait que, il y a ça. Ça peut aussi, quelqu'un qui a réellement un fétichisme sur une chose, c'est très précise et très particulière, ça peut devenir limitant au sens où si c'est absolument nécessaire dans son schéma érotique, ben le reste peut potentiellement être moins accessible ou moins, tu sais, il peut, je sais pas, mettons quelqu'un qui trippe sur le latex puis sans latex ne va pas jouir, là. À un moment donné, ça peut être plate, tu sais, ça peut réduire certaines situations, certaines possibilités, finalement.
Vraiment.
Et le dernier schéma, le schéma qu'on dit métamorphe, fait que c'est un shapeshifter, en fait, ça, c'est la personne qui est également excitée de façon égale, là, par tous les autres schémas, par les quatre autres schémas, fait que c'est une grande flexibilité, adaptabilité.
C'est un polyschéma, là.
Exactement. Nous, on renomme les schémas.
Dans nous autres, là. C'est nous autres qui auraient dû écrire ça.
Schéma,
on va aller à l'office de la langue française.
Schéma sensoriel, polyschéma.
On apporte de l'eau au moulin.
Oui, mais souvent, en fait, ces personnes-là vont s'adapter à qu'est-ce qu'est le schéma de leur partenaire. Parce qu'ils peuvent être satisfaits à travers tous les schémas. Ils n'ont pas besoin d'avoir tout. Ça ne veut pas dire que tu aimes avoir tout le temps. Ça veut dire que tout peut te satisfaire ou tout peut être érotisant pour toi. Fait que c'est un schéma érotique qui a beaucoup de possibilités, finalement, qui a beaucoup de possibilités de jouissance, d'exploration et tout, qui peut facilement être satisfait aussi dans ses rapports. Tu sais, fait qu'il peut être autant satisfait dans des moments où avec une partenaire qui est dans un schéma sexuel super génital, comme peut être satisfait ou a la possibilité d'aller vers quelque chose de très sensuel, très énergétique, finalement. Puis dans son ombre, en fait, c'est qu'il peut se perdre. Il peut perdre son unicité, tellement à force d'être caméléon, finalement, il peut perdre sa véritable essence. Ou il peut se sentir comme constamment incompris ou genre ragé de... mettons que tu es toujours dans un scénario plus sensuel, puis là, ben il y a quelque chose qui te manque à un moment donné. Typiquement, c'est les schémas qui auraient, je mets un « ré » ici, mais qui auraient le plus tendance à être infidèles.
Ah oui, parce qu'il retrouve du plaisir un peu dans tout, finalement.
Oui, parce que tout les excite à un niveau élevé.
Mais est-ce que ça se pourrait que selon le partenaire, notre schéma érotique change?
Si ton schéma érotique change selon ton partenaire, ça veut dire que tu es métamorphe.
Je suis métamorphe. OK.
OK. Mais quelqu'un qui serait plus.
Je demandais pour une amie.
Oui, c'est ça, on avait très bien compris. Quelqu'un qui serait plus polyschéma, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est quelqu'un qui est, j'aime pas le terme obsédé, mais qui est enivré par la chose du sexe?
Je pense pas.
Je pense que tu peux être sexuel, schéma sexuel, puis être obsessif. Je pense que c'est un tempérament de personnalité et pas érotique, là, en fait, le côté obsessif.
J'ai connu quelqu'un, en fait, un ami d'un ami, mettons, qui, lui, la seule façon pour lui de réussir à avoir une érection et un orgasme, c'était dans des situations de simulation de viol. C'était la seule porno qu'il écoutait. Oh. C'était de cette façon-là qu'il avait des relations avec ses partenaires. Fallait toujours que la fille fasse semblant qu'elle voulait pas et tout, tralala. Ça, on est dans la déviance, le rendu là, je pense.
Ouais,
on parle
ben
plus
oui.
de schéma érotique, le rendu là, ou de fantasme. Là. Même s'il le ferait pas dans la vraie vie, là.
Je sais pas. Il y a un principe de tout ce qui est un miam pour toi peut être un yark pour un autre. Là. Mm-hmm. Si tu as deux personnes qui triplent là-dessus, est-ce que c'est déviant ou est-ce que c'est juste un bon match finalement? Ce qui est déviant, c'est la violence de vouloir violenter l'autre. Là.
Ça entrerait dans les schémas kinky.
Quelque chose. Tu veux pas forcément violenter l'autre dans un schéma kinky. Tu veux faire expérimenter quelque chose à l'autre. Ou toi-même expérimenter quelque chose, c'est pas de l'agressivité, c'est pas de...
Non, c'est ça. Ça devient un viol quand il y a de l'agressivité.
C'est pas de la violence.
Parce que la société
si
nous le fait voir comme ça.
Mais si l'autre n'est pas consentante...
Oui, mais si l'autre n'est pas consentante, là, on parle d'un viol aussi, mais
exact.
La société nous le fait voir comme ça dans le principe de la chose, mais si les deux partenaires sont
c'est pas un viol,
à la
c'est...
pratique...
Exact.
Alexine a raison, mm-hmm. C'est pas vraiment... Mais c'est vrai que c'est un bon point. C'est-tu déviant parce que c'est nous qui trouvons ça déviant?
Ouais,
alors que
ça.
Pour ces deux personnes, ça peut ne pas l'être. Alors, la chose de la déviance est quelque chose de très relative.
Vraiment?
C'est ça, exact. Tu sais, là, je vais aller loin, OK, mais quelqu'un qui est attiré par des corps très jeunes, en fait, là, pour lui-même, dans son lui-même, à l'intérieur, dans son corps, là, ce n'est pas une déviance. Pour lui, c'est une attirance.
Ouais, ben,
lui, dans
c'est
la
ça.
Société, c'est une perversion.
C'est
des questions morales, c'est des questions culturelles. Tu sais, c'est beaucoup ça aussi, l'érotisme. Qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct? Il n'y a rien de correct ou pas correct, c'est en fonction de... Là, je ne dis pas de violer des enfants, c'est pas ça que j'ai dit, mais tu sais, c'est une question de perception puis de société puis de culture.
Et des règles que les hommes ont mis en place. Là.
Alexine, c'est déjà le moment de prendre une pause, mais je t'invite à rester avec nous puisqu'au retour de la pause, moi, je serais bien curieuse de connaître le schéma érotique de Max.
Ben...
Et du tien, en fait. Mm-hmm. Je suis vraiment curieuse de connaître votre schéma érotique à vous deux, même si je pense connaître celui d'Alexine, mais on pourra peut-être aller plus en profondeur dans le sujet.
Je te donne mon consentement. Je te donne mon consentement, je vais te le donner.
Excellent. Merci. Merci d'embarquer dans nos folies. Et on a aussi d'autres petits points là, que tu aimerais nous partager au retour de la pause. Donc, on va tout de suite aller à la pause et on vous revient. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h, Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.